بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pour répondre à la question concernant la mosquée de Vinavdask, on est à la phase finale. On est rentré à la mosquée d'une manière non officielle, parce que l'ouverture officielle elle aura lieu, inshallah ta'ala, nous estimons fin février, début mars, inshallah ta'ala. Et on est rentré depuis le début du mois de Ramadan, c'est-à-dire le 1er août dernier. Et on n'est pas ressorti, on est toujours dans nos locaux. Les travaux de finition se font au fur et à mesure, chaque semaine. On n'a pas encore touché la salle de prière. Donc la salle de prière, il lui faut quelques travaux de finition, notamment le plâtre sur les murs et le plafond. Et ça, ça sera, inshallah ta'ala, fait lorsque les responsables des travaux estimeront avoir le devis qu'il le faut, parce qu'ils sont en train de travailler sur les devis le moins cher pour pouvoir, inshallah ta'ala, la finir. En tous les cas, il y a une date qui est fin février, inshallah ta'ala. Normalement, début mars, on fera l'ouverture officielle et vous serez parmi les invités, comme d'habitude. Le thème que vous avez choisi ce soir est un thème très important sur lequel se base l'existence humaine et la présence de l'islam et des musulmans. Car comme vous le savez, il n'y a pas d'idée sans homme, avec le H majuscule. Il n'y a pas d'islam sans musulmans. Il ne peut y avoir l'islam dans quelconque lieu sans la présence des musulmans dans ce lieu. Ce qui fait que la présence des musulmans est importante pour promouvoir l'islam et pour présenter l'islam. Et cette présence des musulmans présente de l'islam ce qu'elle a eu comme connaissance de l'islam et pratique de l'islam et se comporte par l'islam dont elle a eu connaissance et compréhension. Mais aussi, elle pratique de l'islam ce qui est dans ses possibilités. C'est comme ça, notre religion a été révélée de la part d'Allah de cette manière. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا تكلف نفس إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها. Allah ne demande d'une âme que ce qui est dans ses possibilités, que ce qui lui a octroyé, que ce qui est dans ses capacités. C'est cité plusieurs fois dans le noble Coran. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Il ne vous a prescrit dans votre religion aucune gêne, telle est la guidée de votre père Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Donc cette religion ne peut avoir lieu, ne peut exister sans l'existence de ceux qui la pratiquent. Il n'y a pas d'idée, d'idéologie, on a dit, sans les hommes qui promouvoient à cette idée et à cette idéologie. L'idée de l'islam, c'est que le musulman doit être façonné, il doit être bâti, construit, il doit être équilibré. Ce musulman, cette musulmane, ce qu'on appelle l'individu, doit, c'est un devoir humain, se mettre en couple. Et on ne peut se mettre en couple en islam que par le biais du mariage. Car l'islam, il a mis trois droits généraux de l'humanité, qui sont le droit à l'indispensable dans la vie, le droit au nécessaire dans la vie, et le droit à l'accessoire dans la vie. Rappelez-vous-en. Ce sont des droits généraux que l'islam permet et protège et préserve pour toute l'humanité. Le droit à ce qui est indispensable, c'est-à-dire sans lequel il ne peut y avoir de vie. Le droit à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire ce qui permet à cette vie d'être meilleure. Le droit à ce qui est accessoire, c'est-à-dire ce qui embellit la vie. Et ces trois droits, l'islam les donne à l'humanité et les protège pour l'humanité, quitte à aller jusqu'à défendre ces droits par les armes. L'islam l'a utilisé. À l'époque de Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, au début de sa imara, les Coptes de l'Égypte ont envoyé des lettres de demande de secours au commandeur des croyants pour qu'ils viennent les secourir, car ils vivaient sous la tyrannie et l'oppression de Byzance, des Byzantins. Et Omar a envoyé une armée, et cette armée a été glorifiée par Allah, et l'islam est rentré dans ce pays, qui est l'Égypte. Des années sont passées, le préfet de l'Égypte, l'Amir, avait un fils. Son fils aimait jouer à la course de chevaux. Et quand il a fait la course de chevaux, un enfant copte, un jeune homme copte, a gagné contre le fils de l'Amir. Le fils de l'Amir n'a pas aimé. Il a pris le bâton avec lequel il frappe son cheval pour accélérer et il a frappé le jeune homme copte. À l'époque où Byzance régnait sur l'Égypte, un copte qui reçoit un coup d'un Byzantin, il ne se plaint pas. Il ne dit rien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous l'oppression et la tyrannie. Par contre, là, il est sous le règne de l'islam. Et l'islam, par les musulmans, transmet qu'il est la religion de la paix, de la sérénité, du droit, de la justice et de l'équité. Et parmi ces droits, les droits que je vous ai dit, ce qui est indispensable, ce qui est nécessaire, ce qui est accessoire, qui embellit la vie. Qu'en est-il de ce jeune homme ? C'est-à-dire, quel droit parmi ces trois qui ont été touchés ? C'est le droit nécessaire qui a été touché, l'honneur. Et l'islam fait en sorte que l'honneur de l'humanité soit un droit pour l'humanité, à préserver, à ne pas toucher. N'importe quel être humain, on n'a pas le droit de le dénigrer, de le déshonorer. Pourquoi ? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit l'être humain est l'édifice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insanu bunyanullah, يقول النبي صلى الله عليه وسلم. On n'a pas le droit de toucher, de dénigrer, de déshonorer quelqu'un qui fait partie de l'édifice d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est l'œuvre d'Allah. Car lorsque tu dénigres l'œuvre d'Allah, tu as dénigré celui qui a œuvré, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit. Certains vont peut-être nous dire, mais Allah dans le Coran a maudit ceux qui ne croient pas en lui. Vous vous trompez. Allah n'a pas maudit tous ceux qui ne croient pas en lui. Il a maudit certains, que lui seul est capable de savoir qu'ils vont mourir dans la mécréance et dans la négation. Il faut faire attention à ce fait. Donc le droit de ce jeune homme, qui est le droit, qu'on a dit, à la dignité humaine, a été touché. Qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme ? Il a été se plaindre. À qui ? Au préfet ? Non. Parce que se plaindre au préfet, c'est se plaindre au père de ce jeune homme. Il a peur de ne pas être entendu et de ne pas avoir gain de cause et avoir son droit et avoir justice. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il s'est plaint en envoyant un courrier à Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, Omar. Et vous savez, Omar, radiallahu anhu, même les détracteurs de l'islam ont reconnu que Omar est le symbole de son vivant, de son époque, de la justice et de l'équité. Omar convoque l'amir, le commandeur, le préfet, Amr ibn al-As, connu, et convoque ce jeune homme, et le fils de Amr ibn al-As, et le père de ce jeune homme. Et il dit une parole, radiyallahu ta'ala anhu, qui est une parole qui restera marquée et gravée jusqu'au jour où Allah décidera qu'il n'y ait plus de jour. Cette parole, c'est quoi ? مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسِ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. Quand est-ce que vous avez pris les gens comme esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde libres ? La liberté, c'est un droit en islam. Mais tout droit en islam, il a des limites. Ces limites sont posées par Allah subhanahu wa ta'ala. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Il y a des droits, il y a des limites qu'Allah Azza wa Jalla a mis, il ne faut pas les approcher. Il y a des limites qu'Allah Azza wa Jalla a mis, il ne faut pas les dépasser. On a le droit de les approcher, mais ne pas les dépasser. Tout cela nous amène à quoi ? Dans notre thème, nous amène à cet individu qui va mettre en place un couple avec un autre individu, homme et une femme, parmi les musulmans. Et ce couple, on a dit, il ne peut se faire et avoir lieu que par le biais du mariage. Ce couple, l'islam, lui a voulu une finalité. La finalité, c'est quoi ? C'est premièrement vivre en couple, car vivre en couple permet à l'individu de s'épanouir, de trouver en son âme sœur, homme ou femme, quand il se marie, trouver en son âme sœur ce qui lui manque, ce qui lui permet d'avancer, d'avoir un nouvel élan dans sa vie. C'est pour ça qu'on entend cette information qui vient et qu'on nous dit le mariage est la moitié de la religion. Mais il y a une autre finalité aussi. Cette finalité, c'est préserver la chasteté. C'est préserver le licite dans nos comportements et dans nos intimités. C'est préserver la personne de tomber dans la fornication ou de l'adultère. C'est pour ça que l'islam a mis en place et instauré le mariage. Le mariage est-il obligatoire ? Alors, les ulama de l'islam nous disent que le mariage mandoub, az-zawaj mandoubun ilayh, c'est-à-dire il est autorisé. Cela veut dire qu'il n'est pas obligatoire, mais il peut être obligatoire pour certains individus, et peut être interdit pour d'autres individus. C'est-à-dire que le juge musulman, ou le ministre de l'intérieur de l'islam, quand il va mettre en place les règles et les règlements intérieurs de l'État, il mentionne un certain nombre de personnes, un certain type de personnes qui n'ont pas le droit de se marier. Personne, une personne folle, un fou. On lui autoriserait de se marier ? Non, pas du tout. Le mariage pour cette personne, il est interdit, illicite. Hein ? Comme le mariage peut être obligatoire pour certains individus qui ne peuvent pas vivre sans mariage. Hein ? Et il y a des individus qui sont libres. S'ils veulent se marier, ils se marient. S'ils ne veulent pas se marier, ce n'est pas obligatoire pour eux. Vous connaissez Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, mata, yani, a'zaban. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Radiallahu anhu. Vous connaissez l'imam Nawawi. Il est mort aussi, il ne s'est pas marié. s'est jamais marié. C'est des gens qui se sont consacrés à la science, à l'ilm, et la transmission de la science. L'imam Ahmed ibn Hanbal ne s'est marié qu'à l'âge de 41 ans. Il a passé 41 ans à étudier. Après, il s'est dit, je suis capable maintenant de me marier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ces deux individus qui vont nous proposer un couple musulman soient forgés, islamiquement parlant, soient formés au mariage. Pour que lorsqu'ils vont se marier, ils ne vont pas tomber dans les erreurs dans lesquelles sont tombés les prédécesseurs. Nous ne vont pas tomber dans les failles, ne vont pas nous créer un problème dans la société et dans la composante musulmane. Au contraire, ils vont permettre à chacun d'entre les deux de s'épanouir, on a dit. C'est pour ça qu'on se marie. Chacun d'entre les deux de trouver auprès de l'autre l'appui, sened, auprès de l'autre sa moitié avec laquelle il peut cheminer et continuer dans la vie, finir sa vie heureux. Trouver en l'autre son bonheur. Et ceci est l'une des finalités du mariage en islam. Avoir une vie de bonheur en couple. C'est pour ça que l'islam a mis en place trois règles importantes dans la vie de couple. Trois règles importantes. Vous les avez dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, les signes d'Allah dans l'existence, le fait qu'il a créé de vous, pour vous, hommes et femmes, un égal à avoir pour époux ou épouse. Car azwaj, pour étudier un petit peu la langue arabe et l'exégèse du noble Coran, azwaj, c'est le pluriel de zawj. Ou zawj, le premier sens qui est là, parce qu'il y a une règle dans le fiqh l'islami, la législation musulmane, c'est quand on a un texte, la première lecture qu'on doit avoir du texte, c'est ce qu'on appelle la lecture littérale. La lecture littérale, le premier sens que nous donne le texte. Al-aslu fil kalam al-haqiqa. Aqlu' la had la règle hadi. Al-aslu fil kalam al-haqiqa. Le kalam, yani le texte, la première compréhension qu'on doit avoir de lui, c'est celle qui est dite par la langue. Amma al-majaz, c'est-à-dire le sens profond, ça c'est toute une étude de savants de l'islam pour pouvoir approfondir la compréhension du texte. Mais l'asl fait le kalam al-haqiqa, on prend comme il est. Ici il nous dit azwaj, azwaj c'est le pluriel de zawj. Zawj en langue arabe veut dire l'égal, quelqu'un qui est égal à toi. Et là, vous allez nous dire, les femmes sont égales aux hommes? Elles sont derrière vous. Peut-être, avec le hasard, le tayammum, عندهم ou عندكم? Les galets, ils sont où pour faire tayammum? Derrière ou devant? Elles sont égales aux hommes, les femmes? Malkum, khayfin. Elles sont égales aux hommes, les femmes en islam, ah oui. Soyez-en fiers. La femme est l'égale de l'homme en islam. Naam. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqara, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont les mêmes droits et devoirs que les hommes, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les hommes ont un degré de plus sur elles. C'est quoi ce degré qu'ils ont les hommes? C'est pas un degré d'honneur. C'est un degré de responsabilité à mes frères. Ya ibadallah. C'est que l'homme, Allah a dit de lui dans sourate An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima iktasabu." Donc c'est par rapport au bima anfaqu. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que l'homme, il a à charge sa femme. C'est ça le degré. C'est un degré de responsabilité. Un plus dans la responsabilité. C'est pas un plus dans l'honneur. Hein? Tu n'es pas plus honorable que la femme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as une charge en plus que ta femme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Certains disent la femme est créée pour l'homme. Ça, c'est la parole judéo-chrétienne. Excusez-moi, ramenez-moi un texte d'Allah et de son messager et je serai d'accord avec vous. Vous n'en trouverez pas. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. La femme n'est pas créée pour l'homme. L'homme et la femme sont créés pour Allah. Pour servir Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ قَالُ اللَّهُ عَزَ وَجَلُ وَالْإِنسِ مَشِي قَالْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْرِجَلُ وَالْإِنسِ الْإِنسَان l'être humain, homme et femme. Allah عز وجل quand il a parlé des musulmans, il a dit, et les musulmanes, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. Quand il a parlé des croyants, il a dit aussi les croyantes. وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Verset 34, la sourate Al-Ahzab. Gravez-le, apprenez-le. Hein? Quand il a parlé de l'wilaya, l'alliance, il a dit wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Les croyants et les croyantes sont les uns alliés des autres, dit Allah subhanahu wa ta'ala, sourate At-Tawba. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla dit ici azwajan litaskunu ilayha, c'est-à-dire homme et femme, zawj égal à toi, l'époux et l'épouse, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une seule âme, d'un seul être, il a fait surgir l'homme et la femme. Cet être, c'est quoi? L'être humain. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. L'être humain. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Et il a sorti d'elle son égal. Égal à cette âme. La première âme humaine, c'est quelle? Laquelle? Adam alayhi salam. Et Allah a sorti de lui qui? La deuxième âme humaine, n'est-ce pas? Qui est Ève, Hawa? Est-ce que moi et ma femme, Rabbi khalaqniana, et après il a sorti de moi ma femme? Non, impossible. Aucun d'entre nous qui sommes mariés aujourd'hui n'a été la source de la création de sa femme. Kaynashadi. D'accord? Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. L'être humain a été créé de la nature pure de terre. Et la nature pure de terre, ce sont les quatre types de terre: la terre rouge, la terre noire, la terre blanche. Naam. Naam. L'argile. Hein, ou l'argile menin kayji. Naam. Barakallahu fik, c'est l'argile. Mais c'est la terre, elle a quatre, il y a quatre types de terre. Hein? C'est ce que vous voyez maintenant dans le bishra de l'insan, yani la peau de l'homme. Hein? La peau de l'homme, vous avez des gens qui sont noirs, vous avez des gens qui sont de couleur rougeâtre, vous avez des gens qui sont de couleur jaune et vous avez des gens qui sont qui tend vers le blanc, n'est-ce pas? Hadou les quatre types de terre. De ces quatre types de terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. L'être humain, c'est qui hadal qui a été créé de terre? Ahna, on n'a pas été créé de terre, smhouliya. Nous, on a été créé de quoi? De sperme. Goutte de sperme. C'est le Coran qui le dit. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نطفة, vous savez ce que c'est? Celui qui nous a dit que avec l'argile, شنو هي النطفة? كيفاش تقول لها بالفرنسي سي الحاج? Donc, نطفة, c'est la goutte de sperme. cette goutte de sperme dans laquelle il y a des milliers de spermatozoïdes. Et Allah a créé l'être humain de l'un de ces milliers de spermatozoïdes, après une guerre à l'intérieur du ventre de la mère. Donc, où est-ce que je veux arriver avec vous ? À ce que vous ayez cette fierté, non pas cette conviction. Je roule comme hadak, la conviction. Mais d'être fier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait égaux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses paroles, hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les premières à la Mecque, il a dit An-nasu sawasiyatun ka asnanil musht. Les gens sont égaux comme les dents du peigne. Il n'a pas dit les hommes sont égaux. Il a dit An-nas, les êtres humains, sont égaux, hommes et femmes. Ka asnanil musht. Et donc, si nous avons, nous, dans la constitution du couple, cette vocation et cette conviction que celle que j'épouse, je vais la demander au mariage, celle qui reçoit la demande de son futur époux, que nous sommes égaux, on va éviter beaucoup de problèmes par la suite dans le couple. Le dénigrement d'un certain nombre d'hommes de leurs épouses. Un dénigrement que certains d'entre nous ont peut-être connu quand ils étaient petits. Ils ont vu leur père dénigrer leur mère. Ils ont, eux, dénigré leur sœur. Et par la suite, ils ont dénigré leurs épouses. Et ça, c'est connu, c'est psychologique. Hein? Ça doit être traité. La personne doit se soigner, car ce n'est pas islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahli. Il dit vous, les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs envers leurs épouses. Et je suis l'exemple, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis le meilleur envers mon épouse ou mes épouses. Il dit Aïcha radiallahu anha, Abu Huraira, disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais dénigré personne, ni épouse, ni khadim, ni serviteur, servant. Il n'a jamais frappé personne. Aïcha le rapporte, Abu Huraira radiallahu anhu le rapporte. Regardez Al-Shama'il Muhammadiyya de Tirmidhi et vous verrez, inshallah ta'ala, des hadiths là-dessus. Si nous, on se dit des sunnites, ça veut dire quoi sunnites? C'est-à-dire suivre la sunna. La sunna, elle est de qui? Taht min sma. La sunna, elle est dans le comportement du prophète, alayhi salam. Alors, il faut connaître cet homme pour pouvoir être des hommes et des femmes. Car il est l'exemple, sallallahu alayhi wa sallam, pour les hommes et les femmes. Aussi, lorsqu'on veut forger un individu pour qu'il nous forge par la suite avec un autre individu forgé, un couple, il faut que cet individu, dans la formation qu'on lui fait pour le forger, il faut qu'il passe par une connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme et en tant que messager. Ce que l'ulama appelle « Awsafun Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-khulqiyya wal-khilqiyya » Al-khulqiyya wal-khilqiyya. Les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou là si vous voulez, les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son être et dans son comportement. Et ça, il faut le connaître. Combien parmi nous qui, dans le songe, ils ont, entre guillemets, vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, n'est-ce pas? Kainin. Lakin, quand il vient, il te dit, « Cheikh, yani, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux m'interpréter le rêve ?» Tu lui dis, « Mais comment il était dans le rêve ?» Il te dit, il était yani, kbir, grand de taille, habillé tout en blanc avec un grand turban et la barbe blanche. Le prophète sallam n'a jamais été comme ça. Et il ne sera jamais comme ça. Celui que tu as vu, c'est Shaitan. C'est pas le prophète, alayhi sallam. Si tu veux vraiment voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors étudie, lis, chouffe, awsaf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ses descriptions, comment ils l'ont décrit les sahaba, ses cheveux, la couleur de ses cheveux, sa barbe, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, comment ils étaient ses mains, comment ils étaient ses épaules, comment est-ce qu'il était toujours en turban, alayhi salam ou pas, comment ils étaient ses chaussures, sa taille, alayhi salam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que quelqu'un se mettait à côté de lui, il se voyait plus petit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours. Personne ne s'est vu grand de taille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il s'est mis à côté des milliers et des milliers de personnes. Aucun. Et c'est obligé qu'il y ait quelqu'un grand de taille. Obligé. Tu as vu le hadith d'Ul Yadayn. D'Ul Yadayn, un homme parmi les sahabes, radiallahu anhum, qui était grand, tellement grand que ses bras ils étaient très longs. C'est lui qui a tiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à salat al-dhuhr, Sahih al-Bukhari. Il a fait deux rak'at. Ou dar salamu alaykum ou nad. Il est parti pour aller chez lui. Et ce compagnon, il s'appelle, comment on a dit ? D'Ul Yadayn, celui qui a des longs bras. Et il a tiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de loin. Il dit, oh messager de Dieu, est-ce que la prière a changé ou bien est-ce que tu t'es trompé ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, elle n'a pas changé et je ne me suis pas trompé. Et il a posé la question au sahaba. Il leur a dit, est-ce qu'il dit vrai d'Ul Yadayn ? Les sahaba, par pudeur, ils ne l'ont pas dit par la langue, mais ils ont fait avec leur tête comme ça. Oui. Donc il y a des gens qui étaient plus grands de taille, normalement. Mais à chaque fois que quelqu'un se mettait, c'était miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était toujours plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on lui a offert en cadeau un habit, il lui va exactement. Et Allah, comment il fait ? C'est obligé. Il gagne dans des batailles, il gagne des habits, il gagne du tissu, il gagne des capes. Hein? Et à chaque fois qu'il a quelque chose, il lui va vraiment, pile. Miracle. Alors il faut le connaître, alayhi salatu wassalam. Et dans la formation qui est importante et obligatoire pour chacun d'entre nous, parmi nos frères et sœurs qui sont célibataires et qui veulent se marier, il faut qu'ils passent par une formation. Il faut qu'ils soient formés à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse et je suis le meilleur envers mes épouses. Prenez-le comme exemple. Alors il faut l'étudier. Il faut savoir comment il était, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, dans cette formation, il faut que nous inculquions à nos futurs mariés ces trois principes cités dans le Coran al-Karim, dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure. « Huwa alladhi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha » le premier principe. « Trouver auprès de son conjoint ou conjointe, son époux ou épouse, trouver quoi ?» La sérénité, la tranquillité, le calme. Quand le mari rentre chez lui, il vient de son milieu de travail, fatigué. Parfois, il y a des gens qui travaillent dans des milieux qui les fatiguent physiquement. Et le physique joue sur le moral. Et parfois, il y en a qui, c'est pas des maçons, là, ils travaillent dans l'usine, ils travaillent dans un bureau. Toi, tu crois que c'est rien, c'est le papier stylo, non. Ça le fatigue et parfois ça le torture moralement et intellectuellement. Et ça joue sur le physique. Et lorsqu'il rentre chez lui, il faut qu'il trouve chez lui l'épouse qui l'accueille, qui lui permet cette sérénité, ce calme, d'oublier ce fardeau du lieu de travail, de la rue. Et on voit, subhanallah, dans nos rues de nos jours, des choses qui nous... Qui déclare la guerre contre nos principes et notre moralité. Et on rentre épuisé des images, des sons, des odeurs, des situations. Tu rentres chez toi, normalement tu rentres dans... Quand tu traverses la maison, la porte de la maison, pardon, tu rentres dans un état islamique. C'est pour ça que l'un de nos maîtres du 19e siècle dit... Si tu veux avoir un État islamique dans ton pays, fasse en sorte que dans ton foyer, tu l'aies d'abord. chez toi, tu l'es. Et donc, il rentre, il change, il fait une hijra. On est dans la période yak aujourd'hui. Hein, demain, c'est le premier jour de Al-Muharram. Hein, c'est pas encore sûr?
Aujourd'hui.
Hein, aujourd'hui. Hein, on est quel jour aujourd'hui? Samedi. Hein. Donc, samedi, aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, on est rentré dans la nouvelle année. Donc, on se rappelle de quoi? De l'hijra, yak ou l'hijra. C'est une hijra que tu fais, hein. Tu viens d'un lieu vers un autre lieu, d'une situation vers une autre situation, hein? D'un certain nombre d'individus que tu côtoies dans le milieu du travail ou dans la rue, dans le métro, même conduisant la voiture, il y a des gens qui te disent hein, « moi je préfère conduire la voiture hein, que d'aller dans le métro, c'est trop et tout ça, il y a des gens malsains, même en conduisant la voiture, hein, mes frères et sœurs, tu tombes sur des gens qui vont vraiment t'attaquer. L'autre fois, moi, j'étais dans un feu rouge, j'attends, et une personne, elle vient ici à gauche, à ma gauche, moi je regarde comme ça, et elle m'a fait comme ça. Vous voyez ce que c'est? Pistolet, yani, le cas où le pistolet, il est tiyahni. Shift. Et des fois, tu as des gens qui vont sortir par la droite, des gens, surtout si tu es au bled. Tu dois faire attention au feu rouge qui devient vert vite et le vert qui devient rouge vite. Tu sais pas où tu es. Tu dois faire attention aux piétons qui sortent par la droite et par la gauche et derrière toi qui passent et devant et les voitures et les taxis surtout qui veulent aller plus vite. D'accord ? Et prendre plus de clients. Donc, même en voiture, tu rentres chez toi, il faut que tu trouves le calme, la tranquillité. Alors imagine, tu viens d'arriver, tu es fatigué, et sur la route, dans ton esprit, « Masha'Allah, je vais rentrer, je vais trouver à la maison, l'accueil, et puis je vais me débarrasser de mes chaussures, je vais me débarrasser de mes habits, je vais prendre une douche, et me mettre en pyjama, je vais me mettre à côté de mon épouse. » قُرَّةَ الْعَيْنِ la parure de ma vue et de ma vie, mes enfants et tout ça, t'arrives à la maison, personne ne t'accueille, et quand tu t'assois pour enlever tes chaussures, on vient avec un papier, un PV, t'as reçu un PV. 60 euros, 2 points. T'as grillé le feu rouge, les chers. Et بعدها, يعني, d'abord, l'accueil, خلينا تنسوا. On oublie d'abord la vie, elle dit, وعاد... Il y a un savoir-faire et un savoir-être auquel on doit être formé, inshallah ta'ala, avant même de commencer à entreprendre le parcours du mariage. Et vice-versa, vous avez des maris qui travaillent à l'extérieur et qui rentrent chez eux. Et quand ils rentrent à la maison, à l'extérieur, c'était un chat. Et rentre à la maison, il devient un lion. Un tyran, wal'iyadu billah. Déjà pour rentrer, il claque la porte. Hein, et à l'intérieur, rien ne lui plaît. Rien ne lui plaît à la maison. Ni le regard de sa femme, ni le sourire de sa femme, ni la tenue vestimentaire de sa femme, ni comment elle a rangé la maison. Et quand elle va poser le repas, malheur à elle. Manque de sel, trop de sel, trop cuit, pas assez cuit, toujours trouver quelque chose pour déclencher avec la mèche. Et ça, il faut qu'on soit formé pour savoir comment rentrer, comment s'installer. Salama radiallahu anha a dit, le professeur sallam ne s'est jamais plaint d'un repas que je lui ai proposé, que j'ai mis entre ses mains. Ne s'est jamais plaint, n'a jamais dit « j'aime pas » ou « là, il n'était pas bon ». Toujours pour lui, c'est bon. Alayhi salatu wa salam. Il faut prendre en considération la personne et la considérer. Parce que je me dis, c'est quoi on a dit tout à l'heure? C'est mon âme sœur, c'est mon accompagnement, c'est ma compagne, c'est mon compagnon pour l'éternité. Car le musulman, quand il se marie pour l'éternité. Une fois, je l'avais dit en arabe dans un dars, Un homme, il m'a dit, quoi, ils vont être avec nous même au paradis? Je lui ai dit, oui. Oh, jamais ils vont nous lâcher. Ya Latif. Quand on a cette sérénité, bien sûr, on espère être comme ça. Au paradis, inshallah, et au paradis, il y a encore mieux. Inshallah ta'ala. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فَالسَّكِينَ La sérénité et le calme et la tranquillité, il faut que l'époux la trouve auprès de son épouse et l'épouse la trouve auprès de son époux. Il y a dans des couples des époux qui sont au chômage et des épouses qui travaillent. Alors ce que j'ai dit au début est bon pour cette situation aussi. C'est lui qui va accueillir, c'est lui qui est à la maison. C'est lui qui prépare le repas, oui ou non ? نطيبو ولا ما نطيبوش طيبوا القلب تعرفوا القلب لو كوغ نعم اي دونك لو ماري il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans sa sira que il aidait ses épouses dans les tâches ménagères alayhi salatu wa sallam alors qu'il est la meilleure créature de Dieu et vous trouvez des hommes des maris qui sont arrogants pourquoi parce qu'il a vécu comme ça dans son enfance. Il a toujours été servi, il n'a jamais servi. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont au service les uns des autres, au service de la société dans laquelle nous sommes une composante, nous les musulmans. Sinon, on n'avancera jamais, hommes et femmes. Deuxième principe, c'est l'affection. L'islam n'a pas dit, le Coran n'a pas dit le hub. الحب اللي سيتي دون القرآن كينا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لكن يسي إلى دي المودة والمودة سي لافكسيون et dans l'affection il y a quoi il y a le fait de reconnaître que cette personne que tu as épousée c'est un être humain avec toute son entité humaine comme toi car le considéré plus bas que toi, ce n'est pas dans nos vocations, notre vocation, nous les musulmans. C'est la vocation judéo-chrétienne. Les judéo-chrétiens, c'est eux qui ont dit, Paul, c'est lui qui a écrit dans sa Bible, que la femme est créée pour l'homme et qu'elle doit couvrir ses cheveux et si elle ne les couvre pas, elle doit se raser les cheveux. C'est dit dans la version de Paul. Nous, non. Dans le Coran al-Karim, « فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا » Tous les deux ont touché à l'arbre, l'homme et la femme, au paradis. Tous les deux sont responsables de l'acte. Mais qui est-ce qui est le responsable du couple auprès d'Allah, responsable du foyer auprès d'Allah, c'est l'homme. Obligé dans un bateau, il faut un commandant de bord. Kaino le makinesh. Obligé. Sinon, le bateau, il ne va pas avancer. Ou s'il avance, il n'arrivera pas à sa destination, ça et sauf. Il faut un commandant. Et Allah a voulu cela. Les prises de décision se font avec consultation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a consulté ses épouses. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Référez-vous à l'affaire de... Al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on rase les cheveux, ils ont refusé les sahaba, il a consulté son épouse, Umm Salama, et lui a dit, oh messager de Dieu, fais-le toi le premier, et quand ils vont te voir le faire, ils le feront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce que l'épouse, parce qu'il a trouvé qu'elle a eu raison, alayhi sallatou sallam. Donc consultation, et puis après c'est l'homme qui prend la décision. Et s'ils sont tous les deux pas d'accord sur une affaire, d'accord ? Et que la vie de l'homme est halal, la vie de la femme est halal, et pas l'un des deux ne dit pas quelque chose qui est illicite en dehors du cadre de l'islam, c'est l'homme qui prend la décision et il prend la responsabilité devant Allah. Et elle se décharge de cette responsabilité. Et ne croyez pas que c'est un honneur, c'est un fardeau sur les hommes. Ils vont devoir y répondre le jour du jugement. Donc, l'affection, l'amour fait partie de l'affection. L'affection, elle est plus large. Le mawadda, elle est plus large que l'amour lui-même. Car il y en a qui vont avoir ce qu'on appelle en français le coup de foudre. Kayna ou makayna? Le coup de foudre. Chna y a la foudre? Hay Allah ti. واحد شاف مرأة وصافي نزلت عليه الصعيقة والعكس une femme elle a vu un homme elle a eu ce coup de la foudre. Ça c'est un type d'amour. Est-ce que c'est sur cet amour, ce type d'amour, moi je vais conclure une vie de couple? Non, pas du tout. Il faut qu'on ait des sentiments, mais il faut qu'on raisonne aussi. L'islam c'est texte et raison et contexte obligé. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a écrit un livre « Comment rendre compatible le texte et la raison ?» Et il nous a montré les règles. « Al-jam'u bayna al-naqli wal-aql » Comment tu les rends compatibles? Et ça, c'est faisable en islam. Et lorsque la raison elle est en contradiction avec le texte authentique et clair, il n'est pas équivoque, c'est le texte qui prime. Car la raison est limitée et le texte d'Allah et son messager sont illimités. D'accord ? Ils priment. La même chose ici, tous les deux, ils ont des bases, religieusement parlant, halal. Le débat entre les deux, l'échange, il a été fait d'une manière sereine. Ils sont arrivés à un moment à ne pas être d'accord sur une affaire. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre une décision. Qui est-ce qui va prendre la décision? Le chef du foyer. Et c'est lui qui a la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça on est tranquille. Comme ça on est tranquille, le bateau, il arrivera inshallah ta'ala à sa destination. La troisième règle importante que cite Allah Azza wa Jal, Ar-Rahma, la clémence. La clémence. Et la clémence n'est jamais acquise sans pardon. Donc Allah, en réalité, ici, même s'il nous a dit Ar-Rahma, Mawaddatan wa Rahma, il nous parle en même temps de pardon. C'est-à-dire que c'est ce jeune homme, c'est cette jeune femme, jeune époux, jeune épouse qui compose ce couple musulman. Ils ont vécu peut-être différemment auparavant. Ils ont été éduqués différemment. Ils ont vécu dans des milieux et des contextes différents. Rien n'empêche de les unir. Si l'un respecte l'autre, respecte sa différence, tant que c'est dans le cadre de l'islam. Aussi, si l'un commet une erreur, et ça arrive, et ça doit arriver, c'est obligé, ça doit arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous arrêtez de commettre des péchés, Allah vous fera disparaître, créera une autre humanité qui commettra des péchés pour lui pardonner. Car il est le pardonneur. C'est obligé. Kul ibn Adama khatta, tout être humain est pécheur. Donc l'homme, comme la femme, peuvent l'un envers l'autre, commettre un excès. Et vous savez, subhanallah, comme dit Cheikh Yusuf al-Qardawi, hafidhahullah ta'ala, il dit, l'homme et la femme sont deux au début. Dès qu'ils se marient, ils deviennent un couple. Et donc, l'erreur que commet l'un a un impact sur l'autre, car elle a un impact sur le couple, obligatoirement. L'erreur que commet un a un impact sur l'autre, obligatoirement. Alors imaginez, l'erreur que commet l'un de nous, époux-épouse, vis-à-vis de l'autre. L'impact, il sera non seulement sur celui qui a subi, mais aussi sur celui qui a fait subir. Car tous les deux font un couple. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une épouse, lorsque son mari lui demande d'avoir des rapports intimes avec elle, de lui dire non. Même si elle est en train, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exagéré dans ce point pour nous montrer qu'il est allé jusqu'au bout. de l'exagération, alayhi salatu wassalam. Même si elle est à la tannour, même si elle est en train de cuire le pain. D'accord ? Satisfaire son mari à ce niveau, qui est le niveau yani, intime, est plus important que satisfaire son ventre avec la cuisson du pain. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est l'erreur qui est de refuser d'avoir ses rapports avec l'époux va avoir un impact sur le mari, un impact physique et psychologique. Et cet impact va la toucher elle par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque parmi les épouses qui ne lui permet pas, ne satisfait pas son mari, ne permet pas à son mari de satisfaire son besoin intime, et qu'elle dort, elle dort alors qu'Allah ne l'agrée pas. Allah ne l'agrée pas, cette femme. Dans une version, Allah la maudit et les anges la maudissent. Pourquoi ? Parce que le mari, peut-être il ne va pas dormir. Car il a un besoin que la femme en général n'a pas. Les hommes, en plus, yani de besoins charnels, ils sont rapides à avoir et à chercher ce besoin charnel que les femmes. Les hommes rendent blessants sur les femmes diesel dans ce domaine. Pshouya pshouya. Donc le moteur de l'essence direct. Le moteur de diesel, c'est le moteur de démarrer. Il dort chouya, il se rend. Et tout ça dans notre religion est clair. Si vous savez, dans les livres de Al-Fiqh que nous avons étudiés avec Shuyukhna Hafidhahumullah Ta'ala, par exemple le livre de Shawkani Neil Autar, quand on l'a étudié avec Cheikh Si Mohamed Al-Khiyat, Hafidhahumullah Ta'ala, on est arrivé à ce chapitre. C'est notre Cheikh. Hna nhashmou minno, mais il n'y a pas de hashma. Les choses sont claires, subhanallah al-azim. Un chapitre sur le rapport intime entre époux et épouse. Voilà comment il faut faire. Détail. Hein? Donc il faut qu'il y ait cette formation aussi pour nos futurs époux et épouses. Il faut qu'ils comprennent l'état spirituel, l'état intellectuel, l'état psychologique, l'état physique de l'autre. Certainement, on est égaux, comme on a dit tout à l'heure. Mais l'un et l'autre ont des spécificités qu'Allah a placées en eux. Notre vie est une épreuve. Le rapport sexuel intime entre l'époux et l'épouse peut être une épreuve à double tranchant. Il faut faire attention. Il faut que l'épouse et l'époux craignent Allah l'un vis-à-vis de l'autre à ce niveau. Et je vous assure, moi, dans ma fonction d'imam depuis un certain nombre d'années, et même avant d'être imam à la mosquée de Vinavdas, que j'étais imam à la mosquée de Tourcoing, et j'étais imam chargé de l'action sociale à la mosquée de l'Île-Sud, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de couples qui ont divorcé et ceux qui ont failli divorcer à cause de ça. Et après, on dit, mais bon, non, c'est rien ça, c'est pas grave. Ah, si, c'est grave. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça qu'Allah en a parlé dans le Coran. Sourate la lumière. Et Aïcha radiallahu anha disait, apprenez à vos femmes l'exégèse de sourate l'Nour, la lumière. Allah parle de trois temps bénéfiques pour le rapport intime entre l'époux et l'épouse. Trois périodes dans la journée et la nuit. C'est pas pour rien, Allah Azza wa Jalla ne prend pas les choses en futilité. C'est quelque chose d'important. Et il se peut que l'un ait yani, une erreur envers l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Au début, il faut savoir pardonner. Il faut savoir patienter. Et il faut savoir exhorter. Il faut savoir faire le rappel. Et quand on ne sait pas faire le rappel, on utilise autrui pour faire le rappel. On utilise telle conférence, on utilise tel intermédiaire pour faire passer le message afin que l'autre comprenne. Souvent on voit que cela concerne l'épouse surtout que l'époux. Mais c'est une erreur. On croit que c'est souvent l'épouse qui refuse ses rapports avec l'époux. C'est une erreur. Il est arrivé aussi que c'est des hommes qui refusent d'avoir des rapports avec leurs épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Alayhi sallatou wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est exigé par la religion d'Allah de leur donner leurs droits à ce niveau-là, à l'épouse. Il y a des époux aussi qui se satisfassent eux, et puis après ils tournent le dos à sa femme. Et ils la laissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Le livre le plus simple que vous avez dans le marché et qui vous parle de ce rapport, c'est le livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui s'appelle « La médecine prophétique ». Vous êtes étonné, vous allez dire « qu'est-ce que ça a à voir ?» Ibn Qayyim le fait rentrer dans la médecine. Là, yani, subhanallah, ce savant, tous les livres qu'il a écrits et toute la science qu'il nous a laissés. Dans le livre « La médecine prophétique », il est traduit en français, vous trouverez le chapitre « Les rapports sexuels ». Il parle de tout dans les détails, comment il faut faire. Quel moment, de quelle manière, pourquoi il faut le faire. Hein? Et donc, trois principes, mes frères et sœurs, pour ne pas être trop long pour vous. Déjà, je suis venu en retard et je m'en excuse, j'ai oublié de demander pardon au début, mais c'est malgré moi. Un afqi, le afqi, il est obligé d'être à la mosquée. Je devais d'abord faire la prière de l'Isha dans ma mosquée parce que j'ai un cours entre le Maghrib et l'Isha tous les samedis. Et puis après, la route, vous savez, l'autoroute, on ne sait pas ce qui se passe. Samedi soir, la route, elle est chargée, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, trois principes, nous dit le Coran al-Karim. Premier principe, c'est quoi ? C'est, on a dit, la sérénité. Deuxième principe, l'affection, le mahabba, l'amour dans l'affection. Troisième principe, c'est la clémence. Et avec la clémence, va quoi ? Le pardon. Pardonner l'erreur de l'autre. Et puis essayer par la suite de remédier à ses erreurs. Il y a des gens dans le couple, subhanallah, que j'ai trouvé dans mes permanences, les gens qui viennent voir l'imam, parce que quand ils veulent se marier, quand il y a la fête, il y a le bonheur, farhanin, ils ne t'invitent pas à takul ma'hum. Quand il y a un problème, ils viennent te le poser sur le dos. Donc dans les problèmes, vous avez ce problème de quoi ? De ne pas oublier l'erreur. L'un a commis une erreur envers l'autre, aussi grave qu'elle soit. Vous savez, l'imam As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Hawi lil-Fatawa, il cite un couple qui sont venus, il se plaint de son épouse. Avant de commencer, c'était un poète. Il dit toute une poésie devant l'imam Suyuti, ou Suyuti, c'est un grand maître aussi de poésie. Il dit une poésie dans laquelle il se plaint de sa femme. Et il n'a pas cité sa plainte. C'est-à-dire, il n'a pas cité de quoi il se plaint. Et l'imam Suyuti lui répond par une poésie, quelques vers, et lui dit, même si elle aurait détruit la Kaaba et qu'elle revienne vers Allah avec repentir, Allah lui pardonnerait. Subhanallah al-Azim. Même si elle aurait détruit le Kaaba, qui est le Qibla du muslimin, Allah lui pardonnerait. Le pardon est très important. Le pardon, c'est l'un des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah huwa al-ghafur al-rahim. Le pardonneur, le tout miséricordieux. Ça, c'est le verset du Coran. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Peut-être qu'on aura des détails si on peut répondre à vos questions. Après, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donne un verset et je donne un hadith, incha'Allah ta'ala, à moi-même et à vous. Et on part d'ici, de cette assemblée bénie par un verset du Coran et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on vit avec. Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, avait dit, en parlant d'un savant contemporain à lui, On a dit Soufiane Thawri a parlé d'un savant, un grand savant contemporain à lui. Rappelez-vous-en, Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham. C'est un grand savant musulman. Qu'est-ce qu'il a dit de lui? L'imam Soufiane Thawri, connu, Soufiane Thawri, qui est le commandeur des croyants dans le hadith, à son époque. Amir al-mu'minin fi ilm al-hadith. Il a dit, Hafidha Ibrahim ibn Adham, hadithan min ahadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fatabbaqahu fasada ahla zamanihi. Hadith wahad. Hafad wahad al-hadith. Il a appris par cœur un seul hadith et il l'a appliqué dans sa vie. Et il a été le meilleur homme de son époque. C'est le témoignage d'un autre savant. Il dit donc, il dit quoi? Il dit qu'il était meilleur que lui. Il témoigne que cet homme était meilleur que lui. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala. Ce hadith, vous savez c'est lequel? Juste, yani, je ferme la parenthèse. C'est le hadith de Ibra ibn Hissin, radiyallahu anhu. Qui dit, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. صافي هذا حفظه وطبقه على عليه هو في حياته فساد أهل زمانه كان هو سيدهم. Le hadith, c'est celui dont un homme est venu voir le prophète, il a dit, indique-moi au messager de Dieu quelque chose, si je le fais, Allah m'agré et les gens m'agré. Allah m'aime et les gens m'aiment. Le prophète lui dit, renonce aux parures de la vie de l'ici-bas, Allah t'aime. Et renonce en ce que possèdent les gens vont t'aimer. Ibrahim ibn Adham a appliqué ce hadith, il était le meilleur de son époque. Donc, le hadith que je vais vous dire, c'est dans lequel le prophète, le hadith il est dans Sahihain avec des différences dans la version entre le Bukhari et le Muslim, et dans les quatre sunan, rapportés par Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tanasalu, tanakahu, tanakahu, tanasalu, inni mubahim bikum l'umama yawm al-qiyamah. » Il dit « Mariez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Mariez-vous et ayez des enfants. Je serai fier de vous le jour de la résurrection. » Et donc ce hadith, il nous incite à nous marier et nous incite à avoir des enfants, pas un enfant. Des enfants, mes frères et sœurs. Hein? Mais comment le prophète serait fier de nos enfants s'ils sont des gens du coin de la rue, des dealers de drogue, des gens qui côtoient les boîtes de nuit, qui volent, délinquance, mensonge, saleté. Comment il pourrait être fier de nous, alayhi salatu wassalam? Il ne pourrait être fier de nous, alayhi salatu wassalam, que lorsqu'on éduque nos enfants par la meilleure des éducations. Et ce sujet, je le laisse, inshallah ta'ala, pour quelqu'un de plus compétent que moi dans ce domaine. Il vous le fera, inshallah ta'ala. Sur ce, je m'arrête. Au fi hada al-qadr kifaya. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك pour cette intervention. J'avais oublié de vous dire en début de conférence, donc vous êtes invité ce soir par le frère Youssef Badache qui vous invite à l'occasion d'une naissance. Et aussi, donc c'est à l'opposé, donc une personne qui est décédée, qui devait sacrifier un animal, un mouton. Donc sa femme en fait sadaqa pour la mosquée. Donc vous en profitez aussi de cette sadaqa pour aujourd'hui. On fera des doigts pour Charba. Cher, j'ai énormément de questions.
On va commencer déjà par ce que tu as dit sur le décès. Si j'ai compris, cette femme veuve, Allah yarham zawja, elle devait sacrifier un mouton parce que son mari est décédé. Si c'est ce que j'ai compris...
Non, c'est pas ça.
Non.
Il a sacrifié pour l'Aïd. Uh-huh. Normalement.
Ah, donc c'est
et cette bec. Viande, voilà, elle a fait sadaqa à la mosquée.
Ah, non, j'ai compris autre chose. Je m'excuse.
J'ai essayé de mettre par thème. Enfin, ici, c'est pas par thème, mais c'est des questions pour lesquelles j'ai jugé que la réponse allait être courte. Quel comportement adopter envers la belle famille, les relations entre le couple et la belle famille, s'il vous plaît?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il faut prendre en considération, et surtout lorsque l'époux, ou là le nouvel époux, est l'aîné de la maison, de chez lui, ou le dernier. Il faut prendre en considération le lien qu'il a avec sa maman. Quand une maman, son premier garçon, se marie, elle a du mal à le comprendre et à le concevoir. Alors, il faut être patiente, mes sœurs avec elle, ou ma sœur, et il faut prendre en considération cette faillibilité qu'elle a. Et cette faiblesse qu'elle a envers l'amour qu'elle a pour son enfant, ce garçon-là, vous aussi, quand vous allez avoir un enfant et un garçon, vous allez l'avoir. Alors mettez-vous à sa place, inshallah ta'ala, et il faut la respecter, il faut l'honorer, il faut patienter avec elle, et laisser passer des fois des réflexions, des paroles, et ainsi de suite, pour que les relations se maintiennent, et qu'il y ait toujours une vie commune, familiale, entre la belle famille et le couple. Il faut savoir que la belle famille sont du nombre de 4. Le couple sont du nombre de 2. Yakoulillah. Et dès que vous vous mariez et que vous avez un enfant, vous vous êtes mélangé le sang. Et donc votre enfant, il devient le petit enfant des beaux-parents d'un côté et d'un autre. Donc leur enfant. Donc vous partagez le sang tous. Les 6 partagent le sang. Il ne faut plus penser 2. Il faut penser 6, inshallah ta'ala, à ce niveau. S'ils demandent à garder leur petit enfant un week-end, c'est leur droit. S'ils demandent à participer à son éducation, c'est leur droit. C'est leur enfant. S'il décède, il a une part d'héritage lui aussi. Alors il ne faut pas les priver de ce droit, inshallah ta'ala. S'il s'insère dans vos affaires personnelles, de couple, sachez que certainement ils n'ont pas le droit, mais dans certaines situations, ils peuvent apporter beaucoup de conseils. Écoutez-les, remerciez-les et faites ce que vous voyez bon pour votre couple, inshallah. Wallahu ta'ala a'lam.
Tu avais parlé de pardon. Le pardon est-il automatique ou seulement accordé lorsqu'il est sollicité?
Non, le pardon, du croyant, il est automatique. Mais est-ce qu'on est obligé de pardonner? Non. On a le droit de ne pas pardonner. Mais le comportement noble d'un croyant, c'est qu'il s'imprègne l'attribut d'Allah qui est le pardonneur. Quand le prophète sallam dit « Inna lillahi tis'an wa tis'in asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah » Allah a 99 noms, plus 1 qui est Allah, ça fait 100. Quiconque, ahsaha, beaucoup de gens croient, ahsaha, ça veut dire il les a mémorisés. Non, on peut mémoriser sans rien comprendre. Il ne suffit pas de mémoriser. Il faut connaître et les appliquer, se les imprégner dans notre vie. S'imprégner l'attribut d'Allah. Et s'imprégner dans l'attribut d'Allah, le mu'min, Allah, il s'appelle le mu'min. Soyons mu'minim. Allah s'appelle Salam. Soyons des gens Salam, de paix. Allah s'appelle le pardonneur. Soyons aussi pardonneurs, pardonnants. Il faut que ce soit une vocation du croyant qu'il pardonne. Et vous connaissez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme va rentrer, il est promis au paradis. Ils ont cherché, Ibn Omar, il a cherché qui c'est, et pourquoi il est promis au paradis. Il a découvert que cet homme, avant de dormir chaque soir, il pardonne à tout le monde. Il dort tranquille. Inch'Allah ta'ala.
Alors, est-il préférable d'apprendre notre religion en couple ou chacun doit apprendre tout seul de son côté?
Alors chacun apprenne tout seul de son côté avant d'être couple. Et après, en couple, il est préférable d'apprendre ensemble. Mais après, il y a des circonstances qui peuvent faire en sorte que l'un ne peut pas être avec l'autre ensemble pour apprendre. Alors si on prend, pour exemple, les sahaba radiallahu anhum, vous avez deux compagnons par exemple, l'un était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la journée, l'autre était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le soir. Celui qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la journée travaillait le soir. Et l'autre qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le soir travaillait la journée. Ils se rencontraient tous les deux après salat l'Isha et l'un apportait à l'autre ce qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient double apport l'un de l'autre. Dans ces situations-là, un frère qui a assisté à une halaqa entre frères, quand il rentre chez lui, il apporte à sa femme ce qu'il a appris. Une sœur qui a assisté à une halaqa entre sœurs, elle apporte à son mari. Et ensemble, essayons, inshallah ta'ala, d'avoir un programme spirituel dans le couple. Un programme théologien, comme disent les chrétiens. Il y a un programme religieux pour apprendre notre religion. D'accord ? Et un programme intellectuel. Pourquoi ne pas, en couple, dès qu'on se marie, prendre le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et qui parle du droit de l'époux et le droit de l'épouse. Il y a un livre de Cheikh Al-Albani, en français, traduit. Formidable, magnifique. Prenez-le. Épouse et époux. Droit de l'un, droit de l'autre. Et lisez-le tous les deux. Et apprenez. Aussi, il y a un livre qui est vraiment important, primordial. Il faut qu'il soit dans la bibliothèque de chacun de chacun d'entre nous. C'est le livre de l'imam Nawawi, Riyad Salihin. Pourquoi, avant de dormir, ne pas lire Surat al-Mulk, même si on ne sait pas la lire en arabe, on la met à Adna les moyens. On n'a pas d'excuses. On la télécharge et on l'écoute, Surat al-Mulk. Et puis après, l'un de nous lit la moitié dans la traduction et l'autre lit la deuxième partie de la moitié dans la traduction. Et puis, lire un hadith de Riyad al-Salihin par rapport au chapitre qu'il a mis en place l'imam al-Nawawi et dormir tranquillement, inshallah ta'ala. Adahu Allahu a'lam.
Sur la différence de culture, est-ce que c'est un obstacle? Donc il y a deux questions. Un obstacle dans le mariage, est-ce que ça peut être un frein? Le mari ne peut-il pas apporter l'apprentissage à sa femme, la langue aussi comme à son propre enfant? Et même chose avec la belle-famille qui n'est pas musulmane, comment gérer?
Annie, la question de le kafa'a, en arabe on appelle ça fil fiqh le kafa'a. L'islam préfère qu'il n'y ait pas de gros écart, grand écart intellectuel ou spirituel entre l'époux et l'épouse. Wahdi Jandi, il va me poser la question, il va me dire, ouais, cher, je veux un conseil, je connais une fille, voilà, elle est comme ça, mais elle ne fait pas la prière. Et moi, je vois le jeune homme, c'est quelqu'un qui commence à apprendre la religion, bien, il est bien dans sa peau, il fait sa prière et tout ça. On voit en lui qu'il peut être, inshallah ta'ala, quelqu'un d'actif dans la communauté et tout ça. Je lui dis, non, n'épouse pas une femme qui ne fait pas la prière. Elle dit, elle va t'alourdir dans ton cheminement. Épouse quelqu'un qui va t'aider dans ton cheminement, qui va t'alléger le chemin, hein, et le fardeau que tu portes. Et donc la question de le kafa'a, l'équilibre entre l'époux et l'épouse, elle est importante, inshallah ta'ala, intellectuellement et spirituellement. Alors maintenant, quelqu'un qui s'est marié avec une convertie ou une fille qui s'est mariée avec un converti, et là une belle famille non musulmane, comment elle doit traiter cette belle famille? Elle doit la traiter en tant que belle famille. Elle ne voit pas en elle sa religion. Elle voit en elle le fait qu'elle soit les parents de son époux qu'elle aime. Hein. Et l'islam a يعني même dans la vie d'un certain nombre de ulama de l'islam a autorisé à l'homme d'épouser une femme non musulmane faisant partie des gens du livre. Et donc c'est elle qui va porter son enfant tous les deux, leur enfant tous les deux, et c'est elle qui va être le plus présente avec l'enfant. Et pourtant un certain nombre de ulama l'ont autorisé parce qu'il y a un verset qui le dit dans sourate Al-Maïda. D'autres l'ont interdit même pour l'homme. Hein. Même pour l'homme, et eux, ils utilisent le verset 221 de la sourate Al-Baqarah, qui pour eux a abrogé le verset 5 de sourate Al-Ma'ida, la table servie. Donc, si quelqu'un il vous dit, mais comment ça se fait les hommes ont le droit d'épouser des femmes chrétiennes et pas les femmes ont le droit d'épouser des hommes chrétiens? Vous lui dites, c'est faux. C'est une affaire où il y a divergence entre l'ulama. D'accord? Et il y a un verset coranique qui est le verset 221 de la sourate Al-Baqarah qui est clair et il montre que même les femmes, même les hommes n'ont pas le droit d'épouser les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiennes. Parce qu'ils sont idolâtres. Donc lorsqu'il y a une belle famille non musulmane, c'est pareil que lorsqu'il y a une belle famille musulmane non pratiquante. Il faut faire attention. Il y a des belles familles dites musulmanes avec le titre, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'islam. Pas du tout. Il n'y a que le titre, il n'y a que le prénom. Hassan ou Mohamed ou Ali ou Khadija. Mais le comportement, parfois, il est pire que les non-musulmans. Et là, comment il faut faire? Bien sûr, vous êtes les gardiens du dépôt qu'Allah a mis entre vos mains, qui sont vos enfants. Alors faites en sorte que vos enfants ne soient pas mal éduqués et faites en sorte que votre belle famille ne soit pas mal jugée et dénigrée.
Est-ce que c'est haram à une femme de conduire?
C'est même pas la peine de répondre. C'est une aberration, cette question.
Dans un couple, il y a eu prononciation du divorce deux ou trois fois. Donc le mari, tout comme l'épouse, doute du nombre de fois. Quelle attitude doivent-ils adopter?
C'est une question au cas par cas. Il faut que vous allez voir l'imam de la mosquée que vous côtoyez, vous et votre époux, ou bien vous et votre épouse, et que vous exposez l'affaire clairement devant lui. Je ne peux pas répondre comme ça ouvertement.
D'accord. Que dites-vous de la contraception? La pilule est-elle licite en islam? Car dans la société actuelle, il est difficile d'éduquer les enfants dans le droit chemin.
Si c'est pour cette raison, elle est autorisée. Si c'est pour ne pas avoir d'enfants, elle n'est pas autorisée. Si c'est pour la femme qui est jeune, qui n'est pas encore prête à s'occuper de l'enfant, il y a autorisation de la part des ulama de l'islam, tout en il y ait un tahaffud. Les ulama ils disent, et il faut faire attention à ce que le moyen de contraception ne nuit pas à la fertilité. Il faut avoir un enfant d'abord et après utiliser le moyen de contraception. Mais c'est autorisé.
J'aurais aimé savoir si, lorsque l'on dit quelque chose en plaisantant, est-ce que les anges scriptent notes?
Si c'est un mensonge, oui, bien sûr. Mais si tu plaisantes sans se moquer de qui que ce soit et sans mentir, il n'y a aucun problème, c'est halal.
Je ne sais pas si je la pose, cher, parce que c'est un truc qui revient chaque fois et puis...
Ah, la question de...
D'accord, voilà, je pense.
Souvent, on pose cette question de l'achat de maison principale par le biais de la banque.
Mais là, c'est plus...
Mais la question ici, il y a divergence entre l'époux et l'épouse. L'époux, il dit halal, haram, et l'épouse, elle dit halal. D'accord? On a dit tout à l'heure... que lorsqu'il y a divergence, car à ce sujet, il y a divergence entre les ulama contemporains. Il y a des ulama qui ont autorisé, dans notre contexte, d'acheter une maison pour qu'elle soit un foyer principal par le biais de la banque. Il y a d'autres ulama qui ont dit non, c'est haram, même dans notre contexte. Donc il y a divergence. Lorsqu'il y a divergence entre les ulama et qu'il y a divergence entre les époux, il faut que l'un prennent sa responsabilité qui est l'époux. Et l'épouse, elle donne son avis, mais après, il faut qu'elle suive son mari, Inch'Allah.
Ensuite, donc, des questions avec, plus, avec des problèmes dans, entre, dans le couple. Donc, pour fêter l'Aïd, le Kébir, la femme est-elle obligée de passer la fête chez la belle-famille en premier et chez ses parents en deuxième ? C'est-à-dire le deuxième jour de l'Aïd.
Oui, je connais le type de problème.
Ouais. Attends, mariée depuis 5 ans, je voudrais avoir des enfants, mais mon mari refuse et voudrait attendre. A-t-il le droit de me refuser ce bonheur ?
Il n'a pas le droit de refuser, le mari. Naam. Vous savez, lorsque un mari utilise l'azl, l'ulama, l'azl, vous savez ce que c'est que l'azl ? C'est au moment de l'éjaculation... L'homme, il éjacule à l'extérieur de son épouse, après avoir des rapports avec elle. Les ulama, ils ont dit, il n'a pas le droit absolument de le faire que par autorisation de son épouse. Alors imaginez avoir des enfants. Si la femme, elle a besoin d'avoir des enfants, elle a envie d'avoir des enfants, bismillah, Allah yisra. Vas-y, tu voulais dire quelque chose ? Donc si la femme, elle a en plus marié depuis 5 ans, il n'a pas le droit de lui interdire cela. Inch'Allah.
Et pour l'autre question.
L'autre question, c'est la question de où passer. Il faut que vous vous mettiez d'accord avec un programme. Je vais vous le dire clairement. Il y a deux belles familles. Celle de l'époux et celle de l'épouse. Comment il faut faire ? On a deux Eid. Le premier Eid, Eid al-Fitr, on commence par la belle famille de l'époux. Non, elle est bien là où elle est. Khalia. Non, tu veux pas la laisser ? Oh, mais elle veut la. Hein ? Hop là. Allah yislah. Donc, on a dit le premier Eid, l'Eid al-Adha, Eid al-Fitr, pardon, ils vont chez la belle famille. Du côté du mari, en premier, d'accord, c'est-à-dire le matin. Et l'après-midi, ils vont rendre visite à la belle-famille du côté de l'épouse. Et vice-versa dans l'Eid qui va suivre, Inch'Allah ta'ala, vous allez sortir du problème.
Alors, je vais te lire trois questions qui sont un peu dans le même thème. Bismillah, que faire lorsque l'époux refuse de dormir dans le lit conjugal ?
Attends.
C'est un peu
le même chose.
Ouais. Un homme insulte sa femme dans la journée, veut que sa femme soit gentille le soir. Que faire ?
Et soit gentil. Ouais. Hey, il veut autre chose lui.
Je suis
une femme. Bon,
et dernière question, donc je suis une femme battue, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous au minimum faire une doa pour moi, pour nous, afin qu'il puisse être apaisé et qu'il redevienne comme auparavant.
Alors attends, la première c'est quoi ? Rappelle-moi.
Dormir dans le lit conjugal. Il refuse.
Dormir dans le lit conjugal est une obligation coranique. Le Coran le dit dans sourate An-Nisa. Wahjuruhunna fil madaji'. Si tu veux la quitter, c'est-à-dire si tu veux montrer que tu es en colère contre elle, tu es mécontent d'elle, le Coran il te dit jurha, mais dans le madja', dans le lit, c'est-à-dire lui tourner le dos. Alors notre problème, nous, c'est qu'il y a beaucoup de couples, toujours ils se tournent le dos. Tu dis comment je vais faire alors ? Toujours il me tourne le dos, toujours elle me tourne le dos. Normalement, on a dit dans la formation, il faut qu'ils apprennent à commencer leur nuit à être face à face, à se regarder, à discuter un petit peu entre eux.
Chérie, ils vont te dire, oui, mais on doit dormir sur la droite. Donc s'il y en a un qui dort sur la droite et l'autre il dort sur la droite.
Non. Quand on est au lit, on n'est pas directement endormi. On discute entre nous et après, quand on veut dormir, partir. Déjà, on se dit salamu alaikum, l'un à l'autre. Il se peut que le lendemain, l'un ou l'autre ne se réveille pas, il moute. Et puis, on fait du'a. Lakin, avant, il faut discuter un petit peu. Discuter quelque chose d'intime, yani. Thème des poésies ou là, hein. Si vous ne savez pas faire une poésie, qu'est-ce monsieur Google. C'est un grand poète. Vous écrivez sur Google poésie d'amour, il va vous donner plein d'exemples. Changez juste le prénom. Vous mettez le prénom de votre épouse ou là de votre époux. Hein? Et après, hélas. Hein? Donc, discuter un petit peu, face à face, se toucher, bien sûr. C'est pas obligé d'aller jusqu'à l'acte. Yani, c'est pas obligé. Et puis après, peut-être s'embrasser, peut-être se prendre dans les bras. Et puis après, salam alaykoum wa alaykoum salam, on tourne notre visage vers la droite, inshallah ta'ala. Et après, on dort. Lakin, quitter le lit comme ça, c'est interdit. Haram fil islam, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit. Il est de son devoir de subvenir à ce besoin de son épouse, d'être à côté d'elle pendant ce moment. C'est un devoir. Car il représente la protection. Il représente aussi l'affection et l'ibas. Allah Azza wa Jal dit « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun » La couverture, hein, qui couvre l'habit par lequel je m'habille. Alors si je suis séparé de mon habit et de ma couverture dans le lit, j'arriverai pas, peut-être elle n'arrive pas à dormir, miskina. L'autre, c'est
donc l'homme qui insulte sa femme pendant la journée.
Ouais, insulter sa femme, yani. Le professeur sallam a dit, ne frappez pas vos femmes. Hadith, yani, dans le Bukhari et dans Sunan Abi Daoud. Il dit, ne frappez pas vos femmes, car vous les frapperez durant la journée et vous chercherez à avoir des rapports avec elles le soir. C'est-à-dire que le professeur sallam voit une incompatibilité dans le comportement. C'est pas possible. C'est-à-dire la femme, même si l'islam shara, il lui dit donne-lui son droit sexuel, elle va le donner malgré elle. Ça va mal passer. Ça va mal passer. C'est pas bon. Alors insulter déjà, c'est un mauvais comportement. Le musulman doit avoir un noble caractère et ne doit sortir de sa bouche que ce qui est bon, que les paroles bonnes, et qu'on craigne Allah subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يعظم له أجرا. الله عز وجل اللي دي 3 fois هادو les 3 versets dans sourate At-Talaq, le divorce. Il nous dit craignez Allah, quiconque craint Allah lui trouve issue favorable, quiconque craint Allah lui facilite la tâche, quiconque craint Allah et lui donne une énorme récompense. Craignons Allah sur ce que nous disons. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ou tu dis du bien ou tu te tais. Et le professeur sallam dit, l'homme prononce des paroles, il ne fait pas attention à ces paroles-là qui risquent de le jeter dans le feu de l'enfer, 70 ans dans le feu de l'enfer. Alors, subhanallah, un homme qui insulte sa femme, peut-être il risque de le faire devant son enfant. L'enfant, par la suite, il risque de le faire par la suite à sa mère. Il risque d'insulter sa maman. Il risque de le faire à l'extérieur. Ou de raconter à l'école, mon père insulte ma mère. Ça, personne ne le voudrait. Parce qu'il y a le regard des hommes. Alors, il y a le regard d'Allah. Où il est ? La hawla wa la quwwata illa billah.
Dans l'autre sens, que doit faire l'homme si son épouse ne veut pas le suivre, et que doit-il faire si elle répond d'une manière pas vulgaire, mais elle monte le ton.
C'est la simplicité, le plus facile. Non, il faut... D'abord, il doit y avoir déjà des problèmes avant celui-là qui ont mené cette femme à être comme ça vis-à-vis de son époux. Alors il faut traiter ce problème dans les racines. C'est un cas qu'il faut qu'on ait face à nous, les deux, qu'on les écoute tous les deux et qu'on les conseille. Il faut faire intervenir une tierce personne, une médiation, inshallah ta'ala, mon frère, et les choses vont s'arranger. Mais le plus important à faire intervenir, c'est Allah. Avec tes prières, tes invocations. Wallahi al-Azim, une femme qui voit son mari pieux, qui craint Allah, qui jeûne certains jours dans la semaine, qui veille à prier quelques moments dans la nuit, elle ne pourrait pas avoir un comportement avec lui de cette manière. Sauf si c'est une ingrate. Et celle-là, bien sûr, elle a un traitement pour la guérir, inshallah ta'ala, qui n'est pas l'amoud. Je la sais, yani.
Pour mon père, le mariage est un sujet tabou. Il sait que je connais quelqu'un. Celui-ci a voulu faire la demande, mais mon père n'a pas cherché à le rencontrer et n'a jamais voulu le voir. Il ne le connaît même pas, ni sa famille. Il garde le silence. Que faire ?
Il se peut que le père connaît cette personne ou a entendu parler de cette personne. Il ne l'apprécie pas et il a du mal à le dire. Comme il se peut que ce père, il estime que sa fille n'est pas encore prête à se marier. Il faut attendre un peu. Dans tous les cas, la même chose, il faut faire intervenir une médiation. Et la meilleure médiation, c'est quelqu'un de la famille, dont le père a confiance. Hein? S'il n'y en a pas, le père, ce père, normalement, il côtoie une mosquée. Il fait la prière dans une mosquée. Alors il faut aller voir l'imam de la mosquée. C'est pas vous, c'est pas la fille qui va le voir, c'est le garçon. Il fait intervenir l'imam. Et normalement, l'imam, quand il intervient, les gens le respectent et l'écoutent, normalement. Aussi, si ce conseil ni l'autre n'est adéquat avec la situation de la sœur, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de votre projet. C'est-à-dire, il faut faire les prières de consultation et que le garçon prenne ses deux parents et qu'il aille demander la fille au mariage auprès de son père, inshallah.
Donc deux dernières questions. Comment préserver le couple quand l'homme et la femme travaillent, de même lorsqu'ils ont des enfants? Et existe-t-il des formations pour ceux qui veulent se marier?
Actuellement, il existe une formatrice, une sorte qui s'appelle, comment elle s'appelle? Cassette. Vous connaissez? Sur Internet.
Non.
Hein? C'est une psychologue qui s'est spécialisée dans ce domaine. Elle est sur Paris, mais elle se déplace. Elle fait des conférences, elle fait des ateliers. Peut-être il faudra l'inviter un jour ici, inshallah ta'ala, pour vous faire une formation pour les futurs époux. Mais sinon, le UOIF a pour projet de faire cela dans les mosquées qui sont affiliés à l'UOIF, et ce, à partir de cette année, à partir de janvier. Le projet, je l'ai vu, il est écrit, il est mis en place, inshallah ta'ala. Il y a une commission qui s'occupe de cela, et inshallah ta'ala, ils vont le proposer. Mais sinon, dans le terrain actuellement, il n'y en a pas. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est recevoir, l'imam, il doit jouer son rôle, recevoir les futurs époux, et leur donner conseil, les écouter un par un. Hein. Il y a aussi les familles. Il y a les mamans aussi qui peuvent conseiller leurs filles et les préparer et les former à cela. Mais il y a les livres. Il y a des livres qui concernent ce sujet, le sujet de mariage, le sujet de ce que nous avons dit depuis tout à l'heure. Et c'est ces livres-là qui sont nos sources, inshallah ta'ala.
Vas-y.
Tu voulais... un couple, smahli, qui travaille tous les deux.
Oui, yeah.
Alors, un couple qui travaille tous les deux, ils ont des enfants. Si le mari, écoutez bien, son salaire suffit à vivre d'une manière médiane, d'accord, dans cette famille, l'épouse, elle ne doit pas travailler. Elle reste chez elle, elle s'occupe de ses enfants. Ils ont plus besoin d'elle que besoin d'argent, inshallah ta'ala.
Barakallahu fik. On va s'arrêter là. On rappelle.
Il y a une question qui n'a pas été répondue, à mon sens, qui est très importante, ce sujet de la personne qui bâtit sa famille.
Enfin, moi, parce que le frère, il en avait parlé dans la réponse de la deuxième, en fait. Mais si tu veux compléter. Parce qu'il avait commencé par ça, en fait, quand il avait répondu à l'autre question.
Non. Vous êtes...
va. C'est la question.
Battre sa femme.
Voilà, c'est ça.
Elle n'a pas le droit.
Voilà.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, quand les sahaba sont venus, des femmes sont venues, ils se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains époux les frappaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne les frappez pas, vous n'avez pas le droit de les frapper. Et après, ils ont dit, mais si on ne le fait pas, elles délaissent les maisons. Et elles vont dans les écoulements de rivières. Elles se côtoient entre elles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yadribuhunna khiyarukum. D'accord ? Ah. La yadribuhunna khiyarukum. Ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous qui frappent leurs femmes. C'est-à-dire les pires parmi vous. Alors il faut faire attention. Notre exemple, c'est qui ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. On ne doit pas le faire. D'accord ? Sinon, on va faire de nos femmes du lait battu.
Elbn.
Quelle sœur ? Celle qui dit qu'elle en veut plus. Femme battue, elle dit. Elle a demandé de faire des du'as pour elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'aller se plaindre auprès des associations femmes battues. D'aller porter plainte. Et il faut voir. Yani. On ne doit pas répondre à des questions comme ça. Une réponse générale. C'est des cas qu'il faut voir, écouter. Parce qu'il se peut qu'ils ont des enfants. Il se peut que cette femme en âge pressentie qu'elle est, elle aime son mari, qu'elle veut qu'il change. C'est pour ça qu'elle demande qu'on fasse des doigts pour lui. Et je n'ai pas oublié, elle a dit, afin que Dieu apaise son cœur, je crois. Hein, afin qu'il soit apaisé. Donc c'est une femme qui veut rester en couple, elle veut pas se séparer de son mari. On ne doit pas sortir des fatwas comme ça et les pousser à l'extrême sans les écouter. Et voir yani, leur cas, vraiment.
Afin qu'ils puissent être apaisés et qu'ils retournent et qu'ils redeviennent comme auparavant.
Donc si quelqu'un qui a un problème, il faut... La meilleure manière, c'est utiliser toujours, premièrement, comme elle dit, dua, c'est elle yani, la plus touchée et c'est une épreuve pour elle. Et aussi, utiliser la médiation. La médiation, elle peut beaucoup apporter, inshallah ta'ala.
Donc on va terminer sur cette question. Je vous rappelle donc que juste après, donc vous êtes invité à manger donc dans les salles, dans la cour. Khalid, il est là, non Khalid, tout le monde peut aller en même temps ou... Très bien. Donc les femmes et les hommes en même temps, donc les salles sont dans la cour. La conférence de ce soir, elle sera disponible donc sur le site internet de la mosquée. On a entendu énormément de choses. À mon avis, il va falloir peut-être la réécouter pour se remémorer de ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, Charles. On vous remercie. On va clôturer par une invocation.
La ilaha illallahu al-alimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil karim. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا اللهم وقوي شوكتنا اللهم واجعلنا يدا عمن عادانا وسوانا اللهم وألف بين قلوبنا اللهم واجعلنا إخوانا متحابين في جلالك يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم واجعل المسلمين أزواجا وزوجات صالحين تائبين طيبين يا رب العالمين اللهم احينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة اللهم إنا نعوذ بك من موت الغفلة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم تقبل من إخواننا ليلتهم هذه يا رب العالمين اللهم بارك لمولود أخينا يا رب العالمين اللهم اجعله طيبا ولدا صالحا يا أرحم الراحمين اللهم واجعله ولدا زيادة في الإسلام يا رب العرش العظيم اللهم تقبل من أختنا وزوجها اللهم تقبل منهما وارحم زوجها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله اللهم ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين الحاضرين والغائبين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.